coup de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec aujourd'hui un sommaire plutôt varié, des films qui sont français, des films qui sont étrangers et puis une interview, ce sera celle de Ken Scott qui est réalisateur et de Roland Pérez qui est avocat et qui raconte son histoire dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Sophia, tu as deux films.
Oui, je vous parlerai du film de Gia Coppola, The Last Showgirl et d'un film français tourné en Guadeloupe, Magma de Cyprien Vial.
Et puis toi Manu, tu as vu le deuxième film de l'année de Soderbergh.
Donc The Insider, donc un film d'espionnage.
Et puis toi Guillaume, un film italien.
C'est ça, c'est Vermiglio ou La mariée des montagnes.
Un film donc d'agent secret permet d'appréhender les mystères du couple. Nous parlons de The Insider, c'est Cinérama.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Où est-ce que tu vas?
Confidentiel.
D'accord.
Deux mois seulement après présence, hein, Steven Soderbergh revient avec un nouveau projet, toujours écrit par David Kopp, hein, The Insider. Alors après le film fantastique, le voilà qu'il se frotte à l'espionnage, genre qu'il a abordé de près par le passé, notamment avec The Good German, mais jamais de manière aussi frontale. Alors encore une fois, ce caméléon de la caméra désarçonne. Comment le situer dans le cinéma contemporain? Ni auteur, ni faiseur, ou à peu près les deux. Il apparaît aujourd'hui comme une énigme là où dans les années 50, il se serait fondu dans la masse au milieu des Henri Attal. Ouais, ou Robert Wise. On ne sait jamais s'il s'agit de prise de risque ou au contraire de nonchalance. Finalement, plutôt que de le comparer à des cinéastes, Soderbergh a le parcours d'un musicien ou plus précisément d'un jazzman. Hein. Comme un virtuose du saxophone, peu importe ce qu'il joue, c'est la manière de l'interpréter qui compte. Ce qui est rarement arrivé à Coltrane et Miles Davis, hein, soit dit en passant, qui ne jouait pas du saxophone d'ailleurs, mais de la trompette. Hein, mais bon, ça... Alors un génie du rythme, du tempo, à l'œuvre dans The Insider, exercice de style brillant autour d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre son pays. Enfin, c'est plus compliqué que cela, même si le point de vue moral des deux époux est très clair dès le début, ils feront tout l'un pour l'autre, quitte à trahir leur pays.
Tu m'as demandé comment ça marche quand on est avec quelqu'un dans ce milieu. Eh bien voilà. On sait chacun ce qu'on sait et on sait ce qu'on fera, et il y a certaines choses dont on ne parle plus jamais. Je la surveille et je pars du principe qu'elle me surveille aussi.
Ce couple improbable, hein, très vintage, est incarné par deux comédiens exceptionnels. Hein. Cate Blanchett, très glamour, hein, avec un visage de plus en plus étrange, presque figé, apporte le mystère nécessaire à son personnage. Mais surtout, Michael Fassbender, avec ses lunettes carrées, son air à la fois très sérieux et ailleurs, rappelle un autre agent issu des 60s, hein, Harry Palmer, ou plutôt son comédien, Michael Caine, dans High Press File. La référence est évidente, même si Soderbergh n'emprunte pas le style visuel baroque de Sidney G. Furie. Au contraire, sobriété et rigueur sont les maîtres mots de ce thriller cérébral, hein, qui mérite à coup sûr d'être vu au moins deux fois pour en saisir tous les tenants et aboutissants. Les informations fusent à travers des dialogues brillamment écrits, joutes verbales à double ou triple fond sur les motivations des uns et des autres. Alors si vous attendez une déflagration de scènes d'action, vous allez être déçu, il n'y en a pas une seule. En revanche, si vous aimez les situations tendues, bizarres, où les personnages se traquent par des regards et les sous-entendus, vous allez être aux anges. La séquence dure pas, hein, peut-être pivot de l'intrigue, hein, est absolument délicieuse, filmée dans des filtre orange étrange, avec des cadrages qui rappellent parfois la vidéosurveillance. Steven Soderbergh s'amuse de surcroît à briser la règle des 180 degrés lors de champ contre champ perturbant ainsi notre regard de spectateur.
Je sens quand tu m'observes.
Désolé.
J'aime ça.
Je sais bien que ce n'est pas le dîner relax que tu souhaiterais.
Oui, c'est un groupe surprenant. Une spécialiste de la collecte de données, deux agents et la psy-maison. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on traque?
Severus.
Et tu crois que l'un d'eux l'aurait volé?
C'est possible.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas invité un traître à dîner. Consciemment, en tout cas.
On ne devrait pas parler de ça.
Non, probablement pas. J'aurais pensé que tu commencerais par des polygraphes.
Je voulais d'abord tenter quelque chose de plus élégant.
Qu'est-ce qu'il y aura au menu ?
Des petits jeux.
À la fin, il faudra faire le ménage ?
Avec un peu de chance.
C'est très intéressant cet extrait parce que ça permet de voir bien la manière dont le couple peut se parler avec cette espèce de distance et en même temps cette petite sensualité. Enfin voilà, il y a quelque chose.
De toute façon, c'est un couple très mystérieux dès le début du film. Ils ont l'air très distants et en fait, ils sont très très proches. Plus l'intrigue avance, plus on se rend compte que c'est un véritable socle en fait.
Et puis comme tu l'as dit, ils sont prêts à aller jusqu'à la mort. Voilà.
Alors, ce n'est pas tant du côté de l'espionnage traditionnel que l'orne le scénario de David Koepp, mais d'un dramaturge quelque peu oublié aujourd'hui, David Mamet, réalisateur d'une poignée de films remarquables comme Engrenage ou Homicide, et puis scénariste aussi des Incorruptibles. On pense aussi au génial L'affaire Cicéron de Joseph L. Mankiewicz. La séduisante austérité du récit captive pour peu que l'on rentre dès le début dans ce Woody Night croisé, on va dire, avec la comédie glamour conjugale. Soderbergh ferait-il donc un sans faute? Alors non, pas tout à fait, car The Insider possède aussi les qualités de ses défauts et vice-versa. La mécanique du récit parfois n'est rien d'autre qu'une mécanique. Le film manque un peu de chair, de profondeur. La mise en scène clinique désincarnée observe ses personnages avec une distance hautaine, telle des insectes disséqués par un entomologiste un peu sadique. Les agents du gouvernement qui vivent dans le luxe ne sont que des silhouettes sans profondeur, des pures façades élégantes, mais vide. Alors les acteurs sont excellents, mais on ne ressent pas grand-chose. Alors divertissement impeccable quand même, très stimulant intellectuellement, The Insider glisse une belle séquence à la fin du film où un personnage, secondaire en plus, se distingue des autres par une émotivité fulgurante dans le regard. Alors par ce final, Soderbergh prouve in extremis qu'il ne se désintéresse pas complètement de ces pauvres pantins cyniques. Pour moi, il était temps d'avoir un petit peu d'émotion dans le film.
Alors c'est vrai que c'est un film avec beaucoup de distance. Tu as parlé de la scène du repas qui est vraiment remarquable, qui est assez longue. Il y a une autre scène aussi, il en est question là, du polymorphe, c'est-à-dire c'est essayer de savoir, c'est un test pour savoir qui ment, enfin voilà, pour tester le mensonge ou la vérité. Et là c'est aussi une séquence très longue et très 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 intéressante et très bien filmée, je trouve. Enfin bon, moi j'aurais du mal à dire de Soderbergh évidemment, mais je trouve ce film effectivement, comme tu le dis, alors à voir plusieurs fois parce qu'il est très bavard et que finalement le récit, ben, on ne comprend pas forcément toutes les imbrications. Enfin, parfois je me suis senti un peu malmené, un peu écarté. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un film que je trouve par ailleurs remarquable.
Moi, ce serait sur la durée, sur le temps. Je ne sais pas, en fait. J'ai l'impression d'avoir. J'ai été épaté par le film, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de coquille vide derrière, voilà. C'est ce que... on verra ça dans 6 mois, en fait.
On en reparle. Donc, The Insider est en salle déjà depuis le 12 mars. Alors que la Soufrière menace d'entrer en éruption, faut-il évacuer la population de la Guadeloupe ? Nous parlons de magma.
Ben oui, c'est le film, et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Nous avons observé la naissance d'une grosse fumerole qui a provoqué une explosion phréatique modeste. On peut dire à l'heure actuelle qu'on est hors de danger.
Avec Magma, Cyprien Vial s'inspire d'un épisode encore vif dans la mémoire guadeloupéenne, l'éruption de la Soufrière en 1976 et l'évacuation massive de près de 75 000 habitants de Basse-Terre. Un déplacement qui, s'il visait à prévenir un drame humain, s'est prolongé bien au-delà de la menace réelle alimentée par des luttes d'égo entre scientifiques et une gestion administrative opaque. Nombre d'évacués qu'on appelait alors les Magma n'ont jamais pu retrouver leur maison ou leurs emplois et cette crise, bien que sans victimes directes, a laissé des traces profondes sur l'île, nourrissant une défiance durable envers les autorités et les représentants de la science. Partant de cette réalité, le film transpose cette question dans le présent. Que se passerait-il si le volcan se réveillait aujourd'hui ? Mais plutôt que de rejouer le schéma du passé, Cyprien Vial choisit une approche plus lumineuse, mettant en scène un duo de scientifiques capables de dialoguer malgré leurs différences. Katia, volcanologue française chevronnée, et Aimé, jeune chercheur guadeloupéen. À travers eux, Magma s'éloigne du drame historique pour explorer une autre voie, où la confrontation des points de vue peut mener à une issue peut-être moins catastrophique. Vial s'attache ici à capter la complexité sortait du réel en ancrant son récit dans des enjeux humains et politiques concrets. Son regard attentif aux tensions sociales, comme au paysage volcanique qu'il sublime à l'écran, permet à Magma d'échapper au simple film sensationnel pour proposer une fine lecture des rapports entre science, pouvoir et mémoire collective.
Hier, vous expliquiez à tout le monde que plus rien n'allait se passer. Ce matin, on assiste à la plus forte remontée magmatique depuis 50 ans.
On parle d'un volcan vivant.
Les conditions de vie des déplacés sont particulièrement pénibles.
Papa, on te dit que c'est pas encore le moment de rentrer.
On est vraiment à deux doigts de recommander la levée de l'évacuation.
Pourquoi tu dis ça ?
Katia, incarnée par Marina Foïs, dirige l'observatoire volcanologique de la Soufrière en Guadeloupe. Elle forme Aimé, joué par Théo Christine, jeune chercheur en fin de post-doctorat, fils de restaurateurs locaux, qu'elle espère emmener avec elle à La Réunion. Lorsque des fumerolles inquiétantes apparaissent, elle tente de rassurer le préfet, la situation est sous contrôle. Mais une explosion, suivie d'un éboulement qui fait 12 blessés, change évidemment la donne. Sous pression, les autorités ordonnent l'évacuation de milliers d'habitants, déclenchant vent de poussière et de colère sur l'archipel. Face aux tensions croissante, Katia voit son autorité contestée, tandis qu'Aimé se retrouve tiraillée entre d'un côté sa loyauté et l'impact direct des décisions sur sa communauté. Leur relation vacille sous la pression, révélant des fractures plus profondes que celles du volcan lui-même.
Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, c'est pas protéger les gens ça.
J'ai pas de leçon à recevoir d'un petit thésard qui vit sa première éruption, d'accord ?
Madame Reiter, vous semblez inquiète.
Non, non.
Je comprends pas, tu m'as appris à jamais lâcher. Et là, en deux secondes, t'abandonnes.
On n'arrivera pas à anticiper avant le dernier moment.
C'est le moment d'être courageux, là.
Aimer pour Katia.
C'est pas du courage, c'est de l'inconscience.
Aimer pour Katia, tu me reçois ?
Le cinéma a souvent magnifié les volcans avec des images spectaculaires, comme dans Fire of Love de Sara Doza ou The Fire Within, au cœur des volcans de Werner Herzog, dont tu parlais Manu dans l'émission en décembre, qui a retracé la vie du couple de volcanologues Katia et Maurice Kraft. Magma, lui, choisit une autre voie, pas d'explosion, pas de spectaculaire, puisque la puissance du dormeur qui se réveille s'incarne dans une tension qui s'infiltre partout. La véritable menace ne vient pas seulement du volcan, mais des choix administratifs plus ou moins guidés par les observations et modélisations scientifiques qui bouleversent en fait des vies. Évacuation forcée, perte d'emploi, famille entassée dans des gymnases sans garantie de retour pendant des semaines, voire des mois. Entre le préfet, Katia et Aimé, la Soufrière agit comme un révélateur, un personnage à part entière, indomptable, qui redéfinit les équilibres, confronte chacun des personnages à ses certitudes et met à l'épreuve les rapports de pouvoir entre ex-dominant et ex-dominé. La photographie participe d'une dimension sensorielle, associée au géant fumant. Aux côtés du chef opérateur Jacques Giraud, Cyprien Vial s'inspire du travail du photographe Bernard Plossu, avec un grain vibrant, des noirs charbonneux et des verts profonds. Loin du réalisme brut, l'image traduit le rapport tactile et onirique des personnages à ce volcan et aux messages qui leur parviennent du centre de la Terre. J'aurais presque aimé que Magma soit une série sur plusieurs épisodes, tant son sujet, sa photographie, la caractérisation des personnages offrent une matière propice à un développement plus long. Mais en 1h20, le film évite les clichés et écueils auxquels on aurait pu s'attendre et propose une belle expérience de cinéma en questionnant l'héritage colonial et la place des ultramarins dans les décisions publiques, avec un bel exemple de remise en question, de dissolution de l'ego dont bien des politiques devraient s'inspirer. Sorti en février en Guadeloupe, Martinique et Guyane, avant son arrivée en métropole ce 19 mars, Magma est un film qui, à défaut d'exploser à l'écran, s'infiltre lentement dans les consciences comme une coulée de lave qui, en refroidissant, laisse une empreinte indélébile.
Magma, alors je ne sais même pas quoi dire. Enfin, je l'ai vu. J'avoue que j'ai été un peu désarçonné par le rythme de ce film. Enfin, et puis même, il y a un moment, on nous fait croire qu'il pourrait y avoir une tension. Il y a une tension. Et puis finalement, la fin est complètement inattendue, je trouve. Enfin, voilà, le réalisateur s'amuse. En fait, j'ai l'impression qu'il coche plein de cases, effectivement. La relation avec le préfet, enfin, voilà, les relations qu'on peut avoir entre les métropolitains puis les Guadeloupéens. Et puis, il y a effectivement cette image dont tu parles. parle, qui est avec une espèce de filtre qui montre bien une Guadeloupe finalement pas si belle que ça, mais une Guadeloupe dans laquelle elle vit avec les habitants. Et puis donc il y a ça qui est exposé, et puis en même temps il y a cette espèce de tension qu'on voudrait nous amener, qui arrive et puis qui repart assez vite, me semble-t-il. Mais bon, enfin voilà, en tout cas c'est un film assez curieux et qu'on vous propose de voir dans les salles depuis le 19 mars, Magma de Cyprien Vial. Adaptation de l'ouvrage autobiographique de Roland Pérez, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan racontent l'histoire d'une mère extravagante et de son fils qui doit s'en détacher.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Tiens, encore un biopic. Décidément, l'industrie du cinéma cède bien souvent à la tentation de raconter un destin. C'est le cas avec Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Alors, il ne sera pas question d'ailleurs de Sylvie Vartan. C'est un film de Ken Scott, réalisateur québécois qu'on a propulsé, donc réalisateur d'un film racontant l'histoire de Roland Pérez. Connu pour ses interventions sur Europe, l'avocat des stars a écrit un livre racontant son enfance qui ne fut pas bien qu'une partie de plaisir. Nous sommes dans les années 60. Esther, interprétée par Leila Bekhti, donne naissance avec une aisance singulière à son petit dernier. Sauf que celui-ci est né avec un pied beau, il n'a pas de talon. Cette mère, plutôt que de se ranger à l'avis des médecins qui veulent l'appareiller, comme un vulgaire handicapé, pense-t-elle, eh bien, elle cherche des solutions qu'elle tarde à trouver, si bien que son enfant, qui a interdiction de marcher, ne fait que ramper jusqu'à ses 7 ans. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre de la femme d'un rebouteux qui a une idée de protocole. L'enfant doit rester alité pendant un an et demi. Et durant tout ce laps de temps, il s'abreuve de télé, enfin de l'unique chaîne, j'imagine à l'époque, qu'il y avait, et de la musique aussi des années 60. Une artiste trouve grâce aux yeux de l'enfant, c'est Sylvie Vartan. Et c'est grâce à l'icône des années 60 qu'il apprend à lire, car il ne va pas à l'école non plus. Et c'est grâce à elle qu'il tient bon.
Tu parles à personne dans le métro ?
Tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro. Pourquoi ? J'ai 27 ans, maman.
Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus.
Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme.
Pourquoi tu linges ta mère ?
C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête.
Le film s'articule en deux parties. Dans la première, c'est le combat de cette mère exubérante, incapable de rallier tout le monde à sa cause qu'on nous propose. On voit l'emprise qu'elle peut avoir sur son fils et d'ailleurs sur tout le monde. Elle lui permet quand même à ce fils de connaître la marche, ce qui n'est pas rien, lui trouvant aussi sa femme pendant qu'elle y est. Leila Bekhti s'en donne à cœur joie dans ce rôle de mère juive qu'on a beaucoup vu au cinéma. Alors c'est la légèreté et la tendresse qui s'échappent de cette première partie. Puis dans la seconde, c'est un peu plus compliqué. L'on voit comment le fiston devenu avocat doit faire l'effort de couper le cordon ombilical. C'est d'autant plus urgent qu'il est devenu le conseil de Sylvie Vartan et que la mère est prête à révéler que c'est grâce à elle que son fils a pu marcher. Ce que son fils, interprété par Jonathan Cohen, ne veut pas du tout, estimant que la chanteuse supposerait qu'il a élaboré une stratégie pour se rapprocher d'elle. Enfin voilà, ça le mettrait très très mal à l'aise. Ce film, qui est avant tout une comédie, navigue donc entre douceur, éclat et court moment dramatique. La réalisation est suffisamment ample pour permettre d'apprécier l'ensemble des personnages et notamment les deux qui sont au centre de l'histoire, la mère et le fils. Il ne s'agit pas d'un grand film du tout, mais tout de même d'un long métrage de bonne facture qui donne l'occasion de voir jouer Sylvie Vartan aussi dans son propre rôle. Alors, il se trouve que j'ai pu rencontrer le réalisateur Ken Scott et puis celui dont on raconte l'histoire, Roland Pérez. Nous allons pouvoir les écouter dans Cinérama nous parler de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.
Il y avait tous les éléments que j'aime dans une histoire. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de comédie, et il y avait vraiment des beaux personnages hauts en couleur. Il y avait un vrai drame, mais grâce à ces personnages, grâce à l'attitude, par exemple, du personnage d'Esther, il y avait la possibilité de faire de la bonne comédie aussi.
Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout...
Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher ?
Pars à l'hôpital !
Il a donc dû inventer les mères.
Je peux le voir.
Il a un pied beau.
Et l'autre, il est pas beau.
C'est une malformation.
Tous les médecins ont dit, si on vous l'appareillait pas, votre fils ne pourra pas marcher. Et vous êtes venu trop tard. Mais elle était venue depuis tout petit bébé. Donc c'était un non-sens. Donc tout ce qui est dit et tout ce qui était traduit dans le film est parfaitement vrai. Et c'est vraiment alors le miracle qu'on soit tombé sur sur ce rebouteux et sur cette femme du rebouteux. Et c'était le traitement de la dernière chance, c'est-à-dire que le traitement qu'on m'a appliqué, on l'appliquait à des enfants beaucoup plus jeunes, où on était persuadé que on arriverait par les tensions qu'on avait exercées sur la jambe avec des corsets, et des attelles, on pourrait sortir une espèce de masse qui pourrait, par extension, ressembler à un talon.
Votre enfant est handicapé.
Non.
Mais je trouvais ça très, très ambitieux, en fait, de vouloir raconter une histoire qui se passe sur 50 ans, donc ça me plaisait. Il y a quelque chose que je trouvais intéressant d'avoir un film qui se passe sur 1h45 et que la première moitié, en fait, c'est l'histoire d'une mère qui se bat bec et ongle pour que son enfant puisse s'affranchir d'un handicap. Et après, il y a une deuxième partie qui miroire vraiment cette première partie parce que c'est l'histoire de ce même fils qui doit s'affranchir de sa mère qui lui a tout donné.
Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle.
Roland devait rentrer à l'école en septembre.
Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant.
Mon mari n'était pas médecin, il était rebouteux.
On va devoir placer Roland en famille d'accueil.
J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps.
Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez.
Je souhaitais qu'il y ait quand même un équilibre au niveau du drame et de la comédie sur tout le film. Après, il y a des moments qui deviennent très dramatiques dans la deuxième partie, mais grâce justement aux acteurs, en fait, qui ont été choisis, grâce à l'histoire aussi, grâce aux personnages, mais grâce au talent des acteurs, dans des scènes extrêmement dramatiques, on réussit quand même à aller chercher des rires. Par exemple, lorsque le personnage de Roland se retrouve à l'hôpital avec sa mère, et puis c'est un moment, mais extrêmement dramatique, on réussit à faire rire le spectateur. Mais juste parce qu'il y a un petit échange entre Jonathan Cohen et Leila, il y a des regards, etc. Et c'est ce que j'aime le plus. Déjà, il y a des gens qui ont commencé à voir le film, il y a quelqu'un qui a dit, et puis je trouve ça très, très joli, c'est qu'on a réussi à mettre des sourires dans les larmes. Et puis, pour moi, c'est assez joli et c'est assez représentatif du film et du ton qu'on a souhaité avoir.
Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose.
Qu'est-ce qu'il aime, Roland ?
Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là. Arrête, s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan.
Sylvie Vartan, Jonathan Cohen et Leila Bekhti, hein, quand même, dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, nous écoutions Ken Scott et Roland Pérez, dont on raconte l'histoire assez incroyable dans ce film. Mora Del Perro redonne vie au quotidien de villageois italiens fidèles à leur tradition. Nous parlons de Vermiglio.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
L'arrivée d'un homme dans un petit village perdu dans les montagnes italiennes va chambouler la vie et les destinées de plusieurs personnes issues d'une communauté restreinte entre les deux années décisives que furent 1944 et 1945. Alors présenté comme ça, on dirait le début presque de Yojimbo d'Akira Kurosawa, revisité à la sauce spaghetti, et on va voir que nous n'en sommes en fait pas forcément très loin, surtout lorsqu'il s'agit de suivre le style de la mise en scène de Mora Del Perro.
Tu es suspense.
Elle est contente.
Non, ça.
Le film convoque deux sentiments opposés mais qui soudent les bases de l'œuvre de sorte à ce que le spectateur ne puisse se détacher du récit. Alors il y a d'un côté la splendide photographie qui magnifie ce petit village de montagne du Trentin, travail précis et précieux de Michael Krichtmann. Alors la montagne est un endroit majestueux, vertigineux, où il est facile de s'y perdre dans la blancheur de la neige et le silence des lieux. De même, s'il est possible de voir à l'infini la beauté des lieux avec un horizon qui ne cesse de s'étendre, il est tout aussi facile de s'y sentir confiné, pris au piège, voire totalement cloué au sol, hein, entre plusieurs barrières naturelles. La montagne monte et descend, hein, mais les hommes et surtout les femmes ne bougent pas vraiment. Tout semble se passer sur ce plateau isolé, la vie, les tâches quotidiennes, les naissances, les morts, et ce même si une guerre fait rage au loin. Justement, hein, un événement aussi important que la Seconde Guerre mondiale n'arrive même pas à les impacter, ne serait-ce que directement, hein, et tout semble au point mort. Alors nous sommes en 44, mais nous pourrions bien être au milieu du 19e siècle. On pense beaucoup à l'arbre au sabot, hein, d'Ermano Olmi, hein, qui avait remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 78 et qui dépeignait sur plus de 3 heures la vie de paysan pauvre de Bergame. Alors en découle donc ce second sentiment, hein, qui permet de sceller, hein, ce qui fait l'atmosphère si particulière du film, celui du temps qui n'existe pas vraiment parce que la nature a figé le mode de vie des habitants et que la guerre a suspendu toute forme d'espérance en un avenir plus radieux. Alors rien ne semble s'y passer car tout se passe lentement sur plusieurs saisons. C'est en cela, hein, que l'intervention d'un directeur de la photographie russe, hein, n'est probablement pas anodine, car ben, au-delà du film d'Ermano Olmi cité, hein, il n'y a guère qu'un certain cinéma japonais ou russe pour capter la vie qui passe dans toute son austérité simple et son lent quotidien inévitable. Alors on pense à l'impression, hein, de réalisme, hein, et d'authenticité innée, hein, du cinéma de Tarkovsky, même lorsqu'il aborde le domaine de la science-fiction. On a véritablement le sentiment que Vermiglio, hein, a été tourné à l'époque des faits, insufflant une immersion aussi spectaculaire que les faits dépeints sont banals, hein, même si... Il y a ce fameux mariage, hein, qui est annoncé dans le titre français, qui est l'événement principal qui est mis en avant. Le drame personnel, hein, est dicté par l'histoire en marche, mais encore une fois, une histoire qui blesse sans être visible à l'écran, puisqu'on est continuellement tenu à distance du front. Il y a donc, hein, une vision fataliste et existentialiste de la vie et de la mort typique de la littérature russe, Dostoïevski en tête, surtout lorsque les masques ne manqueront pas de tomber dans le final, hein, et que le vrai visage révélé de certains personnages achèvera d'enfoncer, ben, d'autres protagonistes dans la tristesse de leurs conditions. Alors que l'aspect hypnotique, hein, mais un peu rêche de Vermiglio vous séduise ou vous laisse sur la touche, il est sûr, hein, que dans tous les cas, l'inconnu, hein, Mora Del Perro, ne devrait plus le rester, hein, puisque le film de la réalisatrice a récolté toute une série, hein, de nominations au sein de festivals prestigieux et a gagné entre autres, hein, le grand prix du jury de la Mostra de Venise.
Vermiglio est en salle depuis le 19 mars. La carrière de danseuse de cabaret de Shelley, qui a maintenant la cinquantaine, doit s'arrêter. Comment faire ? Non, ce n'est pas un remake de The Substance. Nous parlons de The Last Showgirl.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Gia Coppola, petite fille de Francis Ford Coppola, nièce de Sofia Coppola, rend hommage ici à la classe ouvrière nocturne féminine de Las Vegas dans The Last Showgirl. Un film tourné en à peine plus de 2 semaines à l'image superbe, captée en caméra portée, dont les couleurs pastel bonbon rappellent The Florida Project, hein, de Sean Baker, et plus encore son dernier film, Anora, qui trouve ici un écho évident dans cette exploration thématique, hein, des femmes dans l'industrie du divertissement et du travail du sexe. Au centre du film, Pamela Anderson, sexe symbole iconique depuis Alerte à Malibu dans les années 90, qui retrouve ici un rôle à la mesure de son charisme. Elle incarne Shelley, danseuse depuis 30 ans au Razzle Dazzle, le dernier cabaret à l'ancienne de Las Vegas, hein, dans le style du Lido de Paris, où plumes et paillettes masquent une réalité plus cruelle. Sa carrière l'a galvanisée, hein, portée par la lumière et le prestige qu'avaient encore les danseuses à Vegas à ses débuts, mais elle s'est faite au détriment de sa vie perso et notamment de sa relation avec sa fille Anna. Le choc est brutal, hein, quand le régisseur du spectacle annonce à Shelley que c'est la fin du cabaret, définitivement remplacé par un Dirty Circus, spectacle plus trash et plus sexuel qui correspond mieux à l'appétit des spectateurs actuels. Le film aborde frontalement l'agisme, comme The Substance, hein, tu le disais, Vincent, de Coralie Farja l'an dernier. Donc, dans une industrie façonnée par le male gaze, où elles ne sont qu'objets de désir et de consommation, bah, que leur reste-t-il quand elles vieillissent à ces femmes ? Spoiler, pas grand-chose, en tout cas, ni honneur, ni retraite. Avec une mise en scène rythmée, une image au plus proche des actrices et une lumière qui adoucit l'âpreté du quotidien, The Last Showgirl dévoile l'éloge du show avec une grande justesse, beaucoup de tendresse et de beauté, malgré un constat amer sur la précarité de ces femmes aux États-Unis.
Guillaume, tu l'as aussi vu?
Oui, alors j'ai bien aimé le film, mais alors ce qui est paradoxal, c'est que j'ai bien aimé le film, mais j'en retiens vraiment rien. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, je trouvais qu'il y a des films qui sont bien mieux fichus. J'ai vraiment pas aimé, hein, la mise en scène de Gia Coppola. Par contre, je trouve qu'il y a toute une batterie d'acteurs qui sont tous assez super. Et une des choses qui me gêne, c'est que c'est un film principalement sur les femmes, et je trouve que celui qui tire le plus son chapeau du lot, c'est vraiment Dave Bautista, qui est assez surprenant, alors que d'habitude il a un jeu très bovin, parce qu'il a un physique bovin, hein. J'ai parlé la semaine dernière de In the Lost Land, hein, où il montre tout son non-charisme, mais voilà, c'est un peu gênant, parce que c'est touchant, c'est émouvant, mais en même temps j'en retiens pas grand chose en fait.
Ce sera le deuxième point de vue pour ce film de Last Showgirl en salle depuis le 12 mars.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, vous aurez chacun un film. Manu, ce sera quoi ?
C'est le nouveau film de Albert Serra, Tardes de Soledad.
Et puis toi, Guillaume ?
Moi, je vais vous parler d'un thriller fantastique qui s'appelle Nefarious et aussi d'un documentaire qui s'appelle Rupestre.
Et puis toi, un film français, Sophia ?
Encore avec Marina Foïs, je le jure.
À la semaine prochaine.